La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission La prédication protestante. Je suis Florence Vanquali, pasteur à l'Église évangélique libre de Toulouse. Et j'aimerais aujourd'hui aborder avec vous un sujet qui est difficile pour beaucoup d'entre nous. Enfant, vous vous êtes sûrement déjà retrouvé dans cette situation désagréable. Par défi ou simplement par maladresse, vous avez approché un objet fragile, un vase par exemple, qui s'est retrouvé par terre, brisé en mille morceaux. Quelle horreur quand on voit le vase se casser, hein. Ça se passe presque au ralenti, on sait qu'on va se faire gronder, peut-être même punir. Et quand on est enfant, c'est presque insurmontable. Certains fondent en larmes, d'autres accusent le chien, d'autres encore prennent le balai et puis cachent les morceaux sous le tapis, pas vu, pas pris. Quand on se sent en faute, on a souvent envie de se cacher, de disparaître dans le sol. Ça peut être après une mauvaise note, par exemple, ou même plus grand, quand on n'a pas fini le dossier urgent qu'on devait rendre, quand on a dit une bourde, ou quand on n'a pas fait ce qu'on aurait dû. C'est la honte. La honte. Et la honte déchaîne toute une série de réactions. C'est comme une spirale. Même si on n'accuse plus le chien, au bas mot, on baisse les yeux, ou on a recours à des demi-vérités, on noie le poisson, ou tout simplement, on évite de rencontrer ses parents, son chef, son voisin, etc., toutes les personnes devant qui nous sommes honteux. Lorsque nous sommes en tort, par action ou par omission, nous sommes coupables. C'est comme une dette objective qui s'inscrit sur notre ardoise. Et la culpabilité conduit, plus ou moins, selon notre culture, à la honte. La honte, si on devait la définir, c'est cette conscience que la relation a été perturbée par notre faute, par notre culpabilité. La culpabilité est objective, alors que la honte est liée à la relation, au regard que l'autre pose sur nous. C'est lié à la peur de décevoir, la peur de blesser, la peur d'être accusé ou d'être rejeté. Évidemment, la culpabilité et la honte sont liées, et ce, depuis la première transgression qui nous est racontée de manière imagée dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu crée le monde et l'humanité, il met une limite à la liberté humaine, ne pas manger de tel arbre sous peine de mourir. Sauf que sous l'influence du tentateur, représenté par un serpent, Ève et Adam goûtent aux fruits défendus. Ils découvrent alors qu'ils sont nus, et ce qui était innocent jusqu'à présent devient honteux. Ils s'habillent pour cacher leur nudité, et c'est à ce moment-là que Dieu entre en scène. J'aimerais lire avec vous, pour réfléchir à la honte, ce passage tiré du livre de la Genèse au chapitre 3, les versets 8 à 13. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin d'Éden. Ils se cachèrent de lui au milieu des arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et il lui demanda « Où es-tu ? » L'homme répondit « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » « Qui t'a appris que tu étais nu ? » demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répliqua, « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu se tourne alors vers la femme et lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit, « C'est le serpent qui m'a trompée et j'ai mangé du fruit. » Très vite, Adam et Ève glissent dans la spirale de la honte. Déjà, ils se couvrent, ils se cachent l'un à l'autre. Ils ont beau être complices dans la faute, ils ont honte l'un devant l'autre, avec cette impossibilité de rester nus, de rester simplement comme ils sont. Leur regard a changé, quelque chose entre eux s'est perdu. Mais le pire, évidemment, c'est quand Dieu arrive. Dieu, dans cette histoire, ne vient pas de manière spécialement menaçante, mais il vient avec ce qu'il est, avec son autorité, sa sainteté, sa puissance. Et pour Adam et Ève, eh bien, c'est le moment d'assumer les conséquences de ce qui a été commis. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais bien souvent, lorsque je commets une faute sur le moment, je relativise, je minimise la règle transgressée ou l'impact de ma faute. Mais quand le chef arrive, alors toute l'ampleur de ce que j'ai fait me saute aux yeux à nouveau. Pour Adam et Ève, c'est un petit peu pareil. Sur le moment où ils ont trouvé des raisons de transgresser l'unique interdiction de Dieu, mais lorsque Dieu arrive, il est impensable de se présenter devant lui, alors ils partent se cacher. C'est peine perdue devant Dieu, mais ils le font quand même. Lorsque Dieu les appelle, Adam avoue sa peur, mais remarquez le demi-mensonge. J'ai eu peur parce que je suis nu. Mais il est nu depuis le début. Pourquoi devrait-il soudain avoir honte devant Dieu ? Quand Dieu l'interroge davantage, Adam accuse la femme, qui à son tour accuse le serpent. Il contourne la vérité. C'est comme une preuve que la relation avec Dieu est brisée. La honte est un sentiment extrêmement désagréable. Mais en réalité, c'est une chose qui est normale et même, je dirais, qui est bonne et saine. C'est comme l'ombre de la faute qui vient assombrir la relation. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que quelqu'un grille une priorité en voiture et il vous rentre dedans en emboutissant la moitié de votre voiture. Alors il y a le choc de l'accident, le retard évident sur votre journée, peut-être qu'il y aura des blessures, des réparations à payer, et puis rien que le temps consacré à gérer l'incident et les dossiers. Imaginez maintenant que le chauffard ne montre aucun scrupule. « Oui, monsieur, je vous ai embouti, et alors ? Où est le problème ?» Et ça, c'est un inconnu. Plus la relation est forte, plus l'ombre de la faute est épaisse. Elle entame et elle brise parfois la relation. C'est comme une double peine. Et c'est normal. La honte permet de reconnaître l'ampleur des dégâts de ce qui a été commis. Donc Adam et Ève ont honte devant Dieu. Mais comment Dieu réagit-il ? Très souvent, après le récit de cette première faute, on va sauter au jugement que Dieu prononce. Un jugement, entre parenthèses, qui est moins sévère que prévu. Le jugement de Dieu matérialise la distance, la rupture entre Dieu et l'homme, mais Dieu ne va pas jusqu'à complètement abandonner l'être humain. Bref, avant le jugement, regardez l'attitude de Dieu. Dieu sait ce qui s'est passé, il le sait déjà. Et pourtant, il vient à la rencontre de ces créatures en faute. Il vient leur parler, il leur pose des questions, il leur tend des perches, comme autant de chances d'avouer, de demander pardon, et peut-être même d'envisager ensemble des solutions. Lorsque nous sommes en tort, nous avons l'impression que Dieu se détourne de nous, qu'il se cache, qu'il ne veut plus nous voir, comme s'il nous renvoyait dans notre chambre. Alors il y a plein d'autres moments dans la vie où on peut croire que Dieu se cache, par exemple dans les temps d'épreuve ou dans les temps de crise. Et si vous lisez le livre de Job, par exemple, eh bien vous explorerez ce qui ressemble à un silence de Dieu. Mais dans la faute, quand on se sent en faute, très souvent, on a du mal à aller vers Dieu parce qu'on imagine que Dieu ne veut plus de nous, qu'il est déçu, qu'il se désintéresse de nous ou qu'il est en colère. Pourtant, dans l'histoire d'Adam et Ève, qui est la première transgression et la pire, puisqu'elle a eu des conséquences sur toute l'humanité. Dieu ne se détourne pas d'Adam et Ève. Au contraire, il vient à leur rencontre, il part à leur recherche. Il n'arrive pas en fulminant, en débordant de colère ou de rage, mais il les écoute, alors qu'il sait, mais il leur pose des questions. Ça peut arriver que Dieu se cache ou se détourne de nous. Mais l'attitude de Dieu au jardin d'Éden, après cette faute qui a tout déréglé, qui a déchiré la confiance entre Dieu et l'être humain, qui a perturbé toute l'histoire de l'humanité, l'attitude de Dieu suite à cette faute est quand même révélatrice. Il y a des exceptions, mais le fonctionnement par défaut de Dieu, lorsque nous sommes en faute, eh bien c'est de venir à notre rencontre. J'en veux pour preuve que l'attitude de Dieu, cette attitude de venir à notre rencontre se manifeste à nouveau à travers Jésus-Christ. En Christ, Dieu vient à notre rencontre. Qui que nous soyons, quelle que soit notre indignité, quel que soit le poids de notre culpabilité ou de notre honte. Il ne nous renvoie pas pour toujours, mais il vient se promener en quelque sorte dans notre monde. Il vient nous rencontrer. Il nous appelle par notre nom et il nous invite à la vérité. pas pour nous accabler de culpabilité, pas pour nous rejeter, pas pour nous faire sentir le poids de sa colère, mais pour nous relever. Dieu vient avec grâce et bonté, comme lors de cette première soirée fatidique où Adam et Ève se sont cachés. En introduction, je prenais l'exemple d'un vase brisé. Quand on casse quelque chose de précieux, eh bien il faut que quelqu'un paye, que quelqu'un rembourse. Lorsque nous péchons, que nous fautons, nous offensons Dieu. Pourtant, Dieu a décidé de payer lui-même la facture en devenant un homme qui assume nos fautes dans sa mort, comme un grand frère qui assume nos problèmes, nos difficultés. Oui, en Christ, Dieu vient parmi nous et il couvre nos fautes, nos hontes, par sa justice, pour réconcilier le monde avec lui-même. En Christ, Dieu couvre nos fautes et nos hontes pour réconcilier le monde avec lui-même. Il paye la facture de tout ce que nous avons brisé. Et j'y vois deux pistes d'application pour notre vie quotidienne. La première piste, c'est de ne pas laisser la honte que nous ressentons, qui est normale, qui est naturelle, de ne pas laisser cette honte nous séparer de Dieu. Quand nous sommes en tort, et malheureusement ça arrive régulièrement, à moins d'avoir l'illusion d'être irréprochable, donc quand nous sommes en tort, nous avons beau savoir que Dieu est patient, miséricordieux, plein de grâce, c'est encore le vieux réflexe humain de la honte de nous cacher de Dieu qui ressurgit. La petite voix qui nous dit à l'intérieur de nous « Tu ne peux pas prier parce que tu as fait ça. Tu n'es pas cohérent avec ta foi. » Donc, es-tu vraiment digne de participer à la scène, de prendre l'Eucharistie? Tu vas aller au culte, à la messe, là? Tu vas aller chanter à Dieu des louanges? Mais enfin, tu es complètement décalé. Dieu ne veut pas de toi. Pris par la honte, nous imaginons un Dieu déçu, en colère, un Dieu terrifiant. Alors nous nous cachons. Et en nous cachant, nous nous coupons encore plus de lui. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous sommes en tort, c'est normal et sain d'avoir honte. Mais ce qui me désole, dans ma propre vie et dans celle des autres, c'est que cette honte puisse prendre le pas sur la grâce de Dieu et qu'elle puisse avoir le dernier mot, qu'elle nous écrase au point de nous séparer toujours plus de Dieu. Oui, notre réflexe, c'est de nous cacher, parce que nous sentons bien que nous avons offensé Dieu. Mais quand cette honte nous paralyse, qui en tire bénéfice? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas Dieu non plus. Il n'en tire aucun plaisir, bien au contraire. Le seul qui pourra en tirer bénéfice, eh bien, c'est l'ennemi, lui qui, par tous les moyens, tente de nous séparer de Dieu, depuis la première tentation jusqu'à notre honte. Il utilise tout ce qui est à sa disposition pour nous séparer de Dieu. Il vient nous accuser, même de l'intérieur, avec des insinuations qui recouvrent la voix de Dieu. Mais les insinuations de l'ennemi ne sont que la moitié de la vérité. Parce qu'en face de notre offense, réelle, il y a la croix. En face de notre honte, il y a la main tendue de Dieu, son pardon offert, la main du Christ sur laquelle notre nom est inscrit avec amour. Dans la Bible, Dieu nous invite régulièrement, non pas à nous cacher, mais à revenir à lui, à répondre à son appel, à reconstruire avec lui. C'est ça la repentance, le fait de reconnaître nos torts devant Dieu, de reconnaître leur impact sur notre vie, sur notre relation avec lui. Mais pas pour nous écraser, pas pour nous cacher, pas pour vivre dans une grotte terrée dans l'ombre, mais pour reconstruire avec Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui reconstruit. Je reprends l'image du vase brisé. Au Japon, je ne sais pas si vous connaissez, il existe un art qu'on appelle le kintsugi. C'est l'art de réparer des vases avec du fil d'or. On vend même déjà des vases déjà brisés comme matière première. Donc ensuite, ils sont rassemblés et ça donne quelque chose de très original. Évidemment, ce sont des pièces uniques. Et le mélange entre la matière première du vase et le fil d'or donne un résultat tout à fait impressionnant. Eh bien, Dieu est un maître en kintsugi. Peu importe ce que nous avons cassé, ça peut être une chose, un événement, ça peut être nous-mêmes, ça peut être une situation. Peu importe, Dieu répare avec du fil d'or. Ce ne sera pas comme avant. On voit bien qu'il y a des endroits où ça s'est cassé. Mais Dieu propose autre chose. La vie est encore possible. Alors peut-être que notre faute est derrière nous et qu'elle nous pèse, ou peut-être que nous sommes encore dans l'engrenage du péché. Quelle que soit la situation, Dieu nous invite, non pas à nous cacher, mais à nous tourner vers lui, à venir à lui en vérité pour demander son pardon et son aide. Et lui, son désir, c'est de nous redonner la joie de sa présence et de nous remettre debout. Donc ne pas laisser la honte nous séparer de Dieu. Mais je vois aussi dans ce texte une deuxième piste pour notre vie. Ne pas laisser la honte briser nos relations horizontales. Parce que nous péchons aussi les uns contre les autres. Comment la grâce que nous expérimentons auprès de Dieu peut-elle venir transformer nos relations humaines ? J'aimerais juste consacrer encore quelques instants à cette question. Lorsque nous sommes en faute, à quel point la honte nous paralyse-t-elle ? Je trouve que la grâce de Dieu est tellement libératrice. Lorsque nous sommes dans la honte, tout est remis en question. On a l'impression que tout est fichu. On a envie de fuir, de mentir, d'accuser. Mais si je m'enracine dans la grâce de Dieu, j'entends à nouveau que ma faute n'est pas plus grand que son pardon, que mon péché n'est pas plus grand que son amour. Et peu à peu, cette grâce de Dieu vient transformer ma façon de gérer la faute et surtout la honte. Si Dieu me pardonne, qui m'accusera ? Si Dieu m'accueille, qui me rejettera ? Le Créateur de l'univers m'aime encore et m'accorde encore son pardon. Prendre position face à la honte, ça ne veut pas dire qu'on va minimiser la faute, bien au contraire. C'est simplement refuser qu'elle ait le dernier mot. C'est oser demander pardon en sachant que ni notre vie, ni notre valeur ne sont en jeu. Et proposer non pas simplement de reconnaître ce qui s'est passé, mais de participer à la reconstruction. L'attitude de Dieu dans ce jardin d'Éden, cette attitude de grâce, cette attitude qui nous offre toujours un espoir, une porte de sortie de notre impasse, bien cette attitude de grâce nous apprend qu'il y a toujours un avenir, même quand tout semble bouché, et que c'est dommage, c'est gâché de nous laisser enfermer dans la honte. Ça, c'est quand nous ressentons la honte. Mais de l'autre côté, quand c'est l'autre qui est en tort, quel exemple de grâce offrons-nous ? Si nous sommes du côté offensé ou blessé, est-ce que nous renvoyons l'autre dans un coin ? Est-ce que nous le rayons de la carte ? Est-ce que tout est fichu ? Ah, c'est la question du pardon. Jésus nous invite à imiter Dieu. Mais le Dieu tel qu'il se présente dans la Bible, pas un Dieu imaginaire rempli d'indignation et de colère, non. Le Dieu que la Bible nous présente, ce Dieu qui vient à notre rencontre pour reconstruire avec nous, le Dieu d'Adam et Ève et le Dieu du Christ. Je pense particulièrement à l'exemple que nous donnons aux plus jeunes dans nos familles, parce que c'est dans l'enfance que s'enracinent bien des fonctionnements de fond. Devant l'erreur ou la faute de nos enfants, petits-enfants, neveux, etc., est-ce que nous donnons l'impression que la culpabilité enfonce, écrase, qu'elle remet tout en question, qu'elle brise la relation à tout jamais ? Ou est-ce que nous donnons l'exemple d'un amour accueillant, généreux, d'une relation forte, qui est peut-être ébranlée par la faute, mais qui pourra s'en remettre ? Est-ce que nous prenons le temps à la fois de nommer, de reconnaître les problèmes, et puis d'envisager ensemble des solutions? C'est tellement puissant d'insérer la grâce dans nos relations, avec les plus jeunes, avec bien sûr toute notre famille, mais tous ceux qui nous entourent. Le problème de la honte, c'est qu'elle nous fait croire que la voie est sans issue, que c'est une impasse, que c'est fini. Mais avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Dieu est prêt à tout, il paye même les factures. Il répare ce qui a été brisé avec du fil d'or. Dès la première faute, sa grâce surpasse notre péché. Quel que soit le vase brisé, rien n'oblige à ce qu'il reste cassé. Dieu reconstruit, Dieu relève. Même du pire péché mortel, il nous fait revenir à la vie. Il l'a montré en Christ, le ressuscité. Même la mort n'a pas eu le dernier mot. Alors que la grâce toute puissante de Dieu s'enracine dans notre vie, qu'elle puisse nous relever, nous faire avancer, à la fois dans notre relation avec lui et dans notre relation avec les autres.
J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce te sers.